Bonjour, j'aimerais cet après-midi partager quelques pensées avec vous dans l'évangile de Luc. Luc, si vous êtes d'accord, hein, parce que si vous n'êtes pas d'accord, ça sera le même message. Luc chapitre 2, verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Il est question de qui dans ce texte? Marie, au début de l'évangile, est dit à qui une grâce a été faite. Ce n'est pas du tout ce qu'on interprète aujourd'hui, Marie pleine de grâce. C'est à qui une grâce a été faite, une faveur. Le moment où elle devait accoucher arriva, elle enfanta son fils premier-né, ce qui sous-entend qu'il y en a eu d'autres après. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place. Je lis mal après, que c'est marqué. Pour eux. Ce n'est pas parce que c'était complet, c'est parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs. Les veilles de la nuit. La nuit était répartie en quatre veilles de 3 heures. C'était l'hiver, donc ça fait 12 heures. Je compte bien, hein? Vous me dites si je me trompe, mes chers collègues. Oui? Voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. D'autres évangiles disent une grande lumière. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Dans le texte grec, c'est je vous évangélise de la joie. Vous vous rendez compte? Évangile veut dire bonne nouvelle. Qui sera pour vous le sujet d'une grande joie? C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né. Et c'est la réflexion que je vais partager avec vous. Il vous est né. Un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Voilà, vous avez compris qu'il y avait là 3 points. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il n'est pas dit, il vous est né un bébé qui va rester là au milieu de l'âne, du bœuf. C'est peut-être le souvenir, c'est gentil, de Noël. Mais dès sa naissance, là, dans l'étable, il y avait sur lui cette marque, c'est le Sauveur, c'est le Christ, c'est le Seigneur. Et je ne vous parle pas d'un Noël avec un petit enfant, il est descendu, il a quitté la gloire, il a pris la forme d'un bébé, d'un adolescent, d'un adulte, mais il était dès le départ le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Et c'est sur ces 3 points que je m'arrête. Tout d'abord, le Sauveur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire à quelqu'un oh, « Tu es mon Sauveur ». Moi, un jour, j'ai dépanné quelqu'un qui n'avait plus le pain. Puis elle m'a dit oh, « Vous êtes un Sauveur ». J'ai dit « Attendez, vous vous trompez d'étage. Hein. Le Sauveur, c'est au-dessus ». Mais parfois, on est étonné de la gentillesse de certaines personnes. Mais quand Christ parle du Sauveur, ça va beaucoup plus loin. Le prophète Ésaïe nous dit que il a porté le châtiment qui devait tomber sur nous. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. C'est un Sauveur qui a payé le prix à notre place. On dit rédempteur. Il a payé le prix à notre place. Jésus, tu n'es pas resté dans la crèche. Mais ta mission, c'était d'aller jusque sur la croix, payer le sacrifice à ma place. Je voudrais que vous reteniez cela au plus profond de votre cœur. Christ n'est pas une affaire de religion. C'est l'affaire de l'amour d'un Père qui s'appelle Dieu, qui a voulu non pas que nous périssions, mais que nous ayons la vie éternelle. Alors, il va accepter le sacrifice le plus terrible, la mort de son propre fils pour que moi, Claude, je sois sauvé. Pour que toi, tu sois sauvé. Que chacun, je ne voudrais pas vous dire, tiens, il... Non, non, même Nicolas. Ça, c'est l'amour du Sauveur. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, il est dit ce texte, et inspiré, l'apôtre va dire, il a effacé, et là j'ai noté moi, j'ai encadré ces mots, effacé, comme un tableau. Moi j'aimais bien quand, autrefois, c'est pas si vieux que cela, je vous rassure, mais il y avait des tableaux verts ou noirs. Puis avec une éponge, on effaçait. Et quand le professeur écrivait sur le tableau un problème, il suffisait qu'il s'absente 30 secondes pour que nous, on efface. On n'aimait pas les problèmes, on préférait les solutions. Et voici qu'il est dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Je ne sais pas si vous avez vu des papiers officiels, un acte notarié, qui vous dit que vous êtes propriétaire de la maison, celui-là, il ne faut pas le déchirer. Hein. Mais quand il y a un acte officiel de la justice qui vous dit « Tu n'es plus condamné, tu es libéré. » Et l'acte qui te condamnait, déchiré. Il a déchiré. Ça va même plus loin puisque il l'a dépouillé. Il l'a éliminé sur le bois de la croix. Il a triomphé des ordonnances qui nous condamnaient. La loi qui autrefois était là comme un cadre, comme le code de la route, mais qui nous conduit à Christ. Et la révélation de la personne de Christ n'est pas « tu dois pas, tu es obligé », mais ce que tu ne pourras jamais faire par ta bonne volonté, moi j'ai tout accompli pour t'en donner le pouvoir. Et ta grâce m'en donne le pouvoir. Jean, dans son évangile, dit « Si nous sommes sauvés, ce n'est pas par la volonté de l'homme, ce n'est pas par la volonté de la chair, ce n'est pas par la volonté d'un prêtre, d'un pasteur, mais c'est la volonté de Christ. Et au travers de sa parole, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Waouh ! Je ne le mérite pas, mais tu m'en donnes le pouvoir. Et c'est là ce qui est extraordinaire. Et il dit, en conclusion, et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles sur le bois de la croix. Il a triomphé sur le bois de la croix en spectacle. Ça fait drôle. Et pourtant, quand on lit l'évangile, il est dit qu'au moment où Christ est mort, il est écrit ces mots, tous ceux qui assistaient à ce spectacle. Quand il y a un accident, parfois c'est plus fort que les gens de voir. L'horreur. Voici que le juste, le saint, Christ. Et là, ça dépasse toutes nos religions humaines. Est mort pour moi pour me pardonner. C'est lui le sauveur. C'est lui le libérateur. Il vous est né, et ça c'est une bonne nouvelle, un sauveur. Qui est le Christ? C'est le deuxième point. Ça vous rassure, hein? Heureusement que j'en ai pas 14. Hein. Qui est le Christ? Ça veut dire quoi le Christ? Vous pouvez m'aider parce que je ne sais pas. Ça veut dire quoi le Christ? Alors pas loin. Celui qui a reçu l'onction. Et justement Luc nous dit au chapitre 4 verset 18. Luc chapitre 4 verset 18. Si vous n'avez pas de Bible, regardez sur votre voisin. Déplacez-vous même, il n'y a pas de problème. J'ai vu devant, il y avait deux Bibles. Luc chapitre 4, verset 18. L'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui parle. Il reprend ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe plusieurs siècles auparavant. Et cette onction est sur moi, dit Jésus, pour vous annoncer une bonne nouvelle. On revient, une bonne nouvelle. Eh bien, mes amis, moi, dans ma boîte aux lettres, j'aime bien les bonnes nouvelles. Parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas bonnes. Vous n'avez jamais reçu une mauvaise nouvelle, vous. Hein. Mais quand il y a une bonne nouvelle, et le Seigneur ne vient pas vous dire « j'ai un reproche à te faire ». Moi, même dans les lettres, dans l'Apocalypse, Jésus commence toujours par le positif. Il m'arrive que des gens viennent voir en disant « j'ai quelque chose contre vous ». Je leur dis « je veux bien, mais d'abord vous me faites un compliment ». Et là, ils perdent la mémoire. Moi, le Seigneur me dit « annonce-leur une bonne nouvelle ». L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Vous savez, quelqu'un qui a vécu un drame dans sa maison, dans sa famille, quelqu'un qui, par la souffrance, la maladie, n'a plus d'espérance, quelqu'un qui a vu une rupture, il y a des cœurs brisés. Et Jésus dit, j'étais oint pour venir au secours des cœurs brisés. Et c'est terrible quand la vie nous frappe par les souffrances, le découragement, la solitude, l'anxiété, l'angoisse, la dépression, les frustrations, les blessures émotionnelles, les sentiments de rejet, d'abandon, le mépris, les injures, les injustices, tout ce qui touche le plus profond de notre être et qui nous blesse là à l'intérieur, rien qu'un regard parfois, qui nous blesse. Alors bien sûr, on ne dira rien apparemment, on fera bonne figure, mais on repartira peut-être en disant « il avait un beau discours ». Il n'a pas répondu aux besoins de mon cœur. Et je voudrais vous dire cet après-midi, moi je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que Jésus, il a la réponse à votre cœur brisé et blessé. Un SDF disait un jour, « Vivre me tue et je ne veux plus vivre. » C'est terrible. Victor Hugo a dit, « Le plus lourd fardeau, pour un homme, c'est d'exister sans vivre. » Alors on y va de la poésie. Mais en attendant, il y a le drame là à l'intérieur. Qui va l'écouter? Qui va prendre le temps d'écouter ma souffrance et ma peine? C'est gênant de parler de ses souffrances. Ça se voit sur le visage de l'autre. Je souffre. J'ai des soucis, j'ai des problèmes. Et l'autre vous regarde. Oui, t'as des problèmes? Mais le Seigneur, il écoute. Et l'Écriture nous dit qu'il entend même la voix de nos larmes. Et les maladies les plus terribles commencent, et pour gérer, et ceux qui le savent, je gère une maison de retraite. La maladie la plus terrible, c'est la solitude. C'est cette phase d'abandon qu'on a l'impression que même les siens ne vous considère plus, ne vous reconnaisse plus. Je suis seul. On m'a abandonné. Je vous annonce cet après-midi une bonne nouvelle. Jésus a été oint pour soigner les cœurs brisés. Et je dirais que un malade qui est guéri dans son corps, j'en ai vu et je bénis le Seigneur. Mais les plus belles victoires que j'ai vu de la part du Seigneur, c'est des gens en pleine dépression qui sont relevés. C'est des gens qui étaient au bout, prêts à en finir avec leur vie, qui sont repartis avec plein d'espérance. C'est des injustices qui ont blessé profondément des vies et où le Seigneur a posé sa main et un baume de paix. Christ a été oint pour guérir les cœurs blessés, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. On a l'impression qu'il veut faire sauter les barrières, il veut faire sauter les verrous, il veut donner un message de grâce, une année, un temps de grâce. Et nous sommes dans un temps de grâce. Il y a un texte dans le prophète mais je ne voulais même pas vous en parler, je me le dis à moi. C'est le prophète Jérémie. Je ne sais pas si vous connaissez ce prophète. Il a écrit un livre, le plus, à part celui de Job, c'est le plus terrible. Il s'appelle « Les Lamentations ». Si un jour vous voulez écrire un livre, jamais ce titre. « Les Lamentations de Jérémie ». Il dit à un moment donné, il dit qu'il n'a plus d'espérance, qu'il n'a plus de bonheur. Quand je pense à ma misère, à ma détresse, c'est comme le poison, l'absinthe. Alors, je voudrais presque en finir. Et ces pensées me minent, me détruisent à l'intérieur de moi-même. Et là, il y a comme un souffle de grâce qui arrive. Et il dit, voici les pensées qui doivent réanimer mon cœur, littéralement. Waouh ! C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a quelques secondes, c'était la détresse. Et voici qu'en un instant, voici les pensées qui doivent ranimer et que je veux repasser dans mon cœur. Je voudrais que tu arrêtes de penser à ta misère et que tu penses un instant que Christ a été oint pour te libérer, pour te guérir, pour t'affranchir, pour te pardonner. Voici les pensées, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. L'homme est dominé par les pensées de son âme, dit le livre des Proverbes. Et si vous laissez les pensées vous hanter, la nuit va être terrible. On passe, et j'allais dire on rapace, parce que ça détruit. Seigneur, mets dans mon cœur cette pensée de la grâce et de la miséricorde. Dis-moi simplement que tu m'aimes cet après-midi. Que ton bon esprit parle à mon cœur et me dit, il y a une onction particulière parce que je veux guérir ton cœur. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Amen. Ah, peut-être que dans cette onction qui parle, il y a peut-être une petite parenthèse que je veux souligner. Vous me dites, hein, quand c'est trop long, vous m'arrêtez. Hein. Je me souviens qu'un jour, j'ai 4 enfants. C'est pas un jour j'ai eu 4 enfants, mais j'ai eu 4 enfants. Et lorsque l'aîné de ces 4 enfants était tout petit bébé, mon épouse le langeait. Moi, j'étais admiratif de mon épouse et de mon bébé. Puis un jour, le bébé s'est mis à pleurer. Mais à pleurer comme jamais il avait pleuré. Alors j'ai dit à mon épouse, mais il doit avoir de la fièvre. J'ai touché le front, rien. Mais c'est pas normal qu'il crie comme ça. Mon épouse m'a dit, mais tu sais, mon chéri, les bébés, ça crie. Oui, mais pas tout le temps. J'étais inquiet. Puis à force d'insister, j'ai dit, mais regarde s'il n'y a pas eu quelque chose. Mais non. Puis au bout d'un moment, voyant mon insistance, elle a enlevé la couche. Et là, elle s'est aperçue que l'épingle qui accrochait la couche était rentrée dans la fesse. Et ce n'était pas la couche qui était accrochée, mais la fesse. Et je comprends pourquoi le bébé criait. Vite, on a sorti l'épingle, on a désinfecté. Vous allez dire que c'est cruel, mais ça peut arriver, une erreur. Mais je dis que parfois, il y a des épingles dans notre vie qu'on n'a pas enlevées. Et on continue à pleurer, à souffrir. Et l'onction de Dieu, c'est aussi cette onction qui va nous convaincre qu'il y a peut-être des choses à régler, à confesser. Simplement, Seigneur, pardonne-moi. Ou mon ami, ou mon épouse, ou mon enfant, pardonne-moi. C'est ça, enlever l'épingle. C'est pas simplement dire « je t'aime ». C'est pas simplement dire « oh, j'ai mis de la pommade ». J'ai mis du mercurochrome. Vous imaginez, je mets du mercurochrome sur la fesse de mon enfant, mais je ne lui enlève pas l'épingle. Mais le Seigneur, lui, il veut enlever cette épingle. Il y a peut-être encore une épingle dans ta vie qui te blesse, qui t'a amené à l'amertume et qui a créé une infection. Et tu te dis, comment je vais en sortir ? Confesse simplement ta faute. Simplement, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et pour nous purifier, j'allais dire nous désinfecter, mais je le dis quand même, de toute iniquité. Oh, parfois, il n'y a pas eu d'épingle, hein, je vous rassure. Ne repartez pas en disant, je vais chercher ce soir où j'ai l'épingle. Il y a parfois des circonstances dans la vie qui font mal, qui blessent. Ça ne vient pas de nous, ça vient peut-être des autres aussi. Qui n'a pas été blessé par les autres ? Et parfois même par des proches. C'est Job dans son livre qui dira « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même s'il avait tort. » C'est cabreux, hein ? Celui qui souffre. Et j'aimerais te dire, si tu souffres, ne te culpabilise pas. Confie au Seigneur ta souffrance. Parce qu'il est fidèle. Il est venu pour sauver, pour avoir cette onction particulière qui libère, qui calme la souffrance, qui guérit le cœur blessé et qui veut apporter ce baume de paix et de joie. Et la vie, ce n'est pas simplement une fatalité, je suis né sous une mauvaise étoile. Alors ferme ta porte, dit le Seigneur. Arrête de regarder les étoiles et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. C'est David qui dira un jour, « J'ai le visage, l'âme, le corps usé par le chagrin, ma vie se consume par la douleur et mes années sont plongées dans les soupirs. Ma force est épuisée. Je suis comme un vase brisé. » Mais quand il dit, je tourne mes regards vers l'Éternel, il exauce ma prière. Et je crois à ce Seigneur qui est né un jour dans une étable et dès sa naissance, il est pour toi le Sauveur, le Christ, et je termine, le Seigneur. Le Seigneur. Vous savez, on a parfois une image du Seigneur, surtout au Moyen-Âge, quand il dominait, c'était toujours pour ou récupérer des sous ou pour imposer son autorité. Mais quand le Seigneur règne dans un cœur, c'est pour amener la paix. « Je vous laisse ma paix, » dit Jésus. Il ne vient pas mettre la révolution. Il dira « Si vous voulez que ça change dans votre vie, mais je voudrais que votre vie soit remplie de joie et que vous soyez dans l'abondance. » C'est le message de Jésus. Et quand il parle en termes de Seigneur, moi je viens parce que le monde ne peut pas répondre à la paix. On voit ce qu'il fait aujourd'hui. L'homme ne peut pas donner la paix. Il y a des situations tellement complexes qu'on ne s'en sort pas. Mais je vous donne ma paix, dit Jésus. En tant que Seigneur, j'ai l'autorité, non pas comme le monde donne, mais je veux mettre ma paix dans votre cœur. Il exauce nos supplications, il écoute nos prières. Un jour, quelqu'un m'a dit, « Alors tu dis rien, tu pries pas ?» J'étais devant une situation terrible, un enfant allait mourir, j'étais sans voix, je ne savais pas quoi dire. Et quand un enfant qui a à peine 3 ans, pour qui le médecin dit c'est la dernière heure, j'avais rien qui sortait de ma bouche, et quelqu'un en plus à côté qui me dit « Tu dis rien, tu pries pas. » Jésus entend la voix de mes larmes. Je pleurais, et c'était une prière. ce que je peux vous dire, je suis parti en disant cette phrase, le Seigneur redonne vie à cet enfant. Je suis parti, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as raconté? Mais c'était le Seigneur qui avait mis cette parole, c'est pas moi. C'était pas logique. Parce qu'il a tout pouvoir. Et le soir même, on m'annonçait la guérison totale. Il a été oint. Il est le sauveur. Il est le Christ. Et quand il veut régner, ce n'est pas pour nous emprisonner. Et je termine par cette pensée. Il dira, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, on ne rappelle plus de la suite, c'est. Eh bien, le texte dit, il sortira. Entrer par Christ, ce n'est pas être enfermé dans une religion. Ce n'est pas être enfermé dans une philosophie. C'est franchir le pas de la liberté. Si quelqu'un entre par moi, il sera libre. Parce que si Jésus vous a franchi, vous êtes vraiment libre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors j'aimerais, si vous voulez bien, si vous ne voulez pas, tant pis, moi je le fais tout seul. Vous êtes d'accord? On le fait ensemble? On va fermer nos yeux un instant. Et on va prier. Seigneur Jésus, Seigneur, tu aimes chacun d'entre nous cet après-midi. Moi je ne connais pas ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière. Je ne connais pas. Mais toi, tu sais et tu connais chaque cœur. Et tu sais ce qui est nécessaire à chacun dans sa vie. Peut-être pour certains, ça semble être des détails, mais il n'y a rien pour toi qui est détail. Il y a des souffrances. Il y a des choses qui pèsent et qui font mal. Il y a parfois l'incertitude, l'incompréhension, le trouble. Vous ne savez plus où vous en êtes, vous êtes déçus par la religion. Mais Jésus vient, non pas pour nous parler d'une religion, mais pour nous parler d'amour. Et j'aimerais vous dire simplement cet après-midi, est-ce que vous ne voulez pas que Noël soit la naissance, non pas du petit Jésus, mais du Sauveur, du Christ, celui qui est oint, du Seigneur qui apporte la paix. Alors que nos yeux sont fermés, je vais vous demander simplement de lever la main. Si vous voulez dire, Seigneur, viens m'aider, viens au secours de mon cœur. Je vous demande de simplement lever la main. Et je vais demander à mes compagnons de service sur le devant d'aller prier pour vous alors que vous levez la main. Levez la main, les yeux sont fermés, mais mes deux compagnons de service vont aller vers les mains qui se lèvent et prier simplement. Moi, je ne peux rien pour toi, mais au nom de Jésus, tout est possible. Et je vais demander aux croyants, ce n'est pas un moment de spectacle, aux croyants de prier pour que la visitation et l'onction de Dieu se répandent sur les cœurs. Tu vois, Seigneur, les enfants qui lèvent la main, tu vois les adultes qui lèvent la main. Seigneur, pose la tienne sur ces vies et glorifie-toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.